La première,
13h-14h,
l'agence tourisme,
Walid et Marianne Périlleux.
Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous accueillir en ce début d'après-midi sur la première, très très heureux de vous accueillir comme à chaque fois puisque l'agence tourisme ouvre ses portes en ce samedi pour un nouvel épisode. Bonjour Marianne.
Bonjour Walid, bonjour à tous.
Comment ça va?
Mais ça va bien vous-même,
bah,
Walid.
Très bien, dites-moi, est-ce que par hasard vous aimez les peintres et la peinture?
Eh ben j'adore ça, ah
bah,
vraiment.
Bah tendez l'oreille et la bonne, puisque notre thème de la semaine nous emmène sur les pas de Vincent Van Gogh, l'un des plus grands artistes peintres de tous les temps, parti bien trop tôt à l'âge de 37 ans, et de son parcours de vie bref mais intense, Vincent Van Gogh a passé près de 2 années dans le Borinage.
Et oui, 2 années décisives, de 1878 à 1880, car c'est dans le Borinage que Vincent Van Gogh développe en tout cas sa pensée artistique, réalise ses premiers dessins, et c'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui dans l'agence tourisme. Nous vous ferons découvrir les lieux dans lesquels il est passé ou a vécu, des lieux qui sont devenus de facto des lieux d'intérêt et de visite pour les touristes du monde entier.
Et bien, c'est le cas de 2 maisons dans lesquelles il a vécu. L'une de ces maisons, la maison de Wham sur la commune de Colfontaine, sera d'ailleurs notre site de la semaine. Et c'est près de cette maison, sur le site d'un ancien charbonnage, que vous, Marianne, vous avez réalisé votre reportage du jour.
De cette petite maison de Wham, Vincent Van Gogh voyait en effet le charbonnage de Marcas. Fasciné par la vie des mineurs, il y est descendu à 700 mètres de profondeur. Le charbonnage de Marcas appartient aujourd'hui à des privés qui l'ouvrent volontiers aux visiteurs et évidemment pour moi, l'occasion était trop belle.
Vincent Van Gogh, peintre inspiré, peintre inspirant aussi notamment pour nos auteurs et dessinateurs de bande dessinée. C'est le cas de Sergio Salma qui lui a dédié un album qui va bientôt paraître et nous vous en parlerons en fin d'émission, d'autant plus que la sortie de cet album s'accompagne d'une exposition à Wham justement. Vous l'avez compris,
oui.
Un peu de couleur, un beau tableau pour 1 heure où on va voyager dans l'agence tourisme. Bienvenue.
Imaginez une destination où tout est tout près de tout. Visite Wallonia, tout pour s'évader.
L'agence tourisme sur la première.
Nous partons donc sur les traces de Vincent Van Gogh, peintre néerlandais bien sûr, mais qui est passé par la Belgique, en particulier dans le Borinage. Et nous en parlons jusqu'à 14h avec nos deux invités. Marianne, tout d'abord, oui. Caroline Dumoulin, qui est avec nous en studio. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors,
bonjour
vous êtes,
Caroline.
Historienne de l'art, chargée de collection et conseillère scientifique au pôle muséal de Mons. Et Van Gogh figure en bonne place d'ailleurs dans vos activités professionnelles, autant dire que vous le connaissez bien.
Oui.
Très bien, très très bien. Bien, je vais poser une question d'entrée de jeu. Quelle oreille il a été coupé? Quelle oreille il a coupé? La gauche.
La gauche.
La gauche. La gauche.
Alors à nos côtés, il y a aussi Philippe De Poet, guide Van Gogh dans le Borinage et auteur d'un blog dédié au grand peintre. C'est aussi le plus borin des flamands. La citation est de lui. Puisque voilà plus de 20 ans que vous vivez, cher Philippe, dans le Borinage et que Van Gogh est devenu votre passion. Alors pour avoir passé quelques heures avec vous, vous connaissez vraiment très très bien sa vie. Et ma première question, c'est est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir, selon vous, sur son passage dans le Borinage?
Ouais, il y en a quand même pas mal, oui. Ça dépend ce qu'on recherche, mais il y a donc les 2 maisons dont Walid a déjà parlé.
Ouais.
Il y a encore l'ancien endroit où il prêchait pour les protestants du coin, donc le salon du bébé. Effectivement, le charbonnage de Marcas. Et puis, bon, il y a par-ci, par-là, bon, il y a encore l'ancienne gare de pâturage où il est descendu du train.
Gardez-en pour tout à l'heure.
Oui,
gardez-en pour tout à l'heure.
Je vois même que... une fois que je commence.
Ah, voilà. Oui, voilà,
plus l'arrêter. Tiens, vous vous connaissez, je suppose,
Caroline. Oui, oui.
Philippe, hein, vous connaissez. On va commencer par le début avec vous, Caroline, en rappelant les raisons pour lesquelles Van Gogh arrive dans le Borinage.
Alors, il arrive dans le Borinage avec l'envie de travailler avec les populations laborieuses et de prêcher au fait auprès de ces populations laborieuses. Et donc, il est engagé à Wham en tant qu'évangéliste. Mmh. Il obtiendra ce qu'on appelle aujourd'hui un CDD, un contrat à durée déterminée de 6 mois.
Ce qui arrive de plus en plus d'ailleurs.
Ce qui arrive de plus en plus, voilà. Malheureusement, son contrat sera terminé au bout de 6 mois parce qu'il ne conviendra pas à la fonction. Il sera remercié. Et c'est à l'issue de cet énième échec professionnel qu'il arrivera à Wham pour travailler comme évangéliste bénévole auprès du pasteur Édouard Joseph Franck et puis j'en parlerai tout à l'heure.
Les choses ne se passent pas comme il l'avait imaginé. Il abandonne donc la voie de prédicateur qu'il s'était choisi, ce qui le mène au dessin. On dit souvent que c'est dans le Borinage qu'il démarre sa vie d'artiste, c'est vrai?
Oui, c'est vraiment là que Van Gogh exerce ses premiers pas en tant qu'artiste. Il fait le choix de cette carrière artistique à l'issue d'un voyage qu'il mène à Courrières avec l'envie de rencontrer le peintre Jules Breton, qui est un des peintres de l'école Barbizon. Malheureusement, Jules Breton n'est pas là. Van Gogh n'ose pas frapper à la porte, il fait demi-tour. Et au retour de ce voyage, il y a vraiment toute une pensée qui se développe. Il rentre en contact à nouveau avec son frère Théo, qui va l'alimenter en fait en copies d'œuvres qu'il va lui-même copier jour et nuit, des ouvrages enseignant le dessin, la perspective. Et donc c'est vraiment à Coëm qu'il développe sa patte artistique.
C'est son côté mystique qui l'invite à faire du dessin ou pas ?
Alors, pas du tout. C'est deux choses séparées. Mm-hmm. On peut dire que la partie mystique, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé, qu'il a essayé de mettre en pratique à Wam et un petit peu à Coëm au début en tant que pasteur bénévole. Ouais. Mais cette envie de percer artistiquement, cette envie de dessiner, de suivre cette voie artistique a toujours été là, en fait. Van Gogh a toujours dessiné depuis son plus jeune âge, mais il n'a jamais osé franchir le pas. Et c'est vraiment à Coëm, avec ses marches d'abord dans les Ardennes flamandes et puis à Courrières, qu'il sent qu'il peut y aller, quoi.
Il se développe, mm-hmm. Ouais. Il va séjourner à Wam d'abord, on en parlera avec Philippe, et puis à Coëm, près de Mons. Deux maisons que vous connaissez, hein, Philippe, hein,
oui.
Bien, vous connaissez
mm-hmm.
très bien. Ces deux maisons sont aujourd'hui accessibles au public, Caroline. Qu'est-ce qu'on va trouver, par exemple, dans la maison de Coëm ?
Alors, la maison de Coëm, je le vois comme un lieu de mémoire. Donc, c'est là où Van Gogh a vécu pendant près d'un an. C'est une maison de mineurs, mais quand même assez cossue, dans mm-hmm. le sens où les communautés protestantes à l'époque n'avaient pas de lieu officiel pour leur culte. Mm-hmm. Et donc, on louait
peu,
ce qu'on
ouais.
trouvait. Et il se trouve qu'à Coëm, le synode louait une maison qu'on appelait la maison temple, dans laquelle avait lieu le culte. Et attenant à cette maison, il y avait une annexe louée par une famille qui s'appelait la famille de Krug, chez qui ouais. Van Gogh logeait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir en fait la maison temple, telle que Van Gogh l'a connue. L'annexe, malheureusement, a été détruite 14 ans après son passage, mais on a toujours les fondations. Et au sein de cette maison, il y a un film qui retrace toute l'histoire ouais. du séjour de Van Gogh dans le Borinage. On parlera de ses exercices de copie, les ouvrages qu'il aurait pu lire pendant son séjour. Et vous avez également deux espaces pédagogiques pour les enfants où vous pouvez vraiment vous mettre dans la peau de Van Gogh et dessiner à sa manière.
Et
si vous voulez, pourquoi pas, mais aussi les ouvrages qu'il avait à sa disposition lors de ce séjour. Vous pouvez également vous initier à ce qu'on appelle le perspectographe. Donc c'est une technique utilisée par les peintres à l'époque pour vraiment apprendre à retranscrire sur de la 2D de la perspective. Mmh. Il y a également un dispositif qui vous permet de peindre, entre guillemets, à la manière de Van Gogh. Et puis, on a aussi un guide du visiteur pour les adultes, un guide du visiteur pour les enfants.
Ouais, Van Gogh, vous l'avez dit, est en quelque sorte devenu un produit touristique donc pour Mons. Il y a aussi une dimension européenne dans la mise en valeur des endroits dans lesquels il a séjourné. Ça concerne, en effet, plusieurs pays. Racontez-moi, il y a des projets communs entre tous les pays.
Ouais. Oui. Donc, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Van Gogh Europe.
Il y a quoi, 26 pays ?
26 institutions.
Ouais. Ah, 26 institutions. Ouais.
4 pays, à savoir la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Angleterre. Ces 26 institutions, ce sont donc à la fois des sites qui préservent l'œuvre de Van Gogh, je pense au Van Gogh Museum, au Kruller-Müller Museum, au Musée d'Orsay, et puis ce sont aussi des sites dans lesquels Van Gogh a vécu. Vous avez la maison Van Gogh, la maison natale de Zundert, maison Van Gogh de Coëm, de Wam, la maison Gachet. Enfin voilà, ce sont des institutions qui permettent vraiment de préserver et de promouvoir la vie et l'œuvre de Van Gogh. Et dans le cadre de ce réseau, on a mis en place, par exemple, à la maison Van Gogh de Coëm, un projet transfrontalier avec la maison Van Gogh de Zundert, qui consiste donc à accueillir des artistes, de jeunes générations d'artistes inspirés par la vie et l'œuvre de Van Gogh, et d'avoir cet échange, en fait, entre artistes.
Alors, pendant ces deux années qu'il passe dans le Borinage, est-ce qu'on a gardé des œuvres majeures de cette période ?
Oui, alors...
On sait qu'il a fait des dessins,
oui.
Voilà, il s'initie vraiment à la pratique
à la pratique du dessin,
artistique, oui.
Oui, tout à fait. Van Gogh a énormément dessiné durant cette période, il a beaucoup détruit ou donné, donc... On sont attestés de cette période seulement 6 œuvres aujourd'hui,
ah ouais. mmh.
oui, dont 2 dessins, les Bêcheurs, qui sont donc des copies réalisées à partir de l'œuvre originale de Jean-François Millet, qui est aussi un des peintres de l'école Barbizon comme Jules Breton. Et ces deux copies sont conservées aujourd'hui, l'un au Kruller-Müller Museum et l'autre à l'Artothèque
à Mons. Voilà. Oui.
Donc la ville de Mons est propriétaire d'un dessin de Van Gogh depuis 1979.
Uh-huh. Un vrai trésor.
Un vrai trésor, c'est reconnu comme comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ouais. À ne pas vendre si vous voulez chercher de l'argent, tiens, vous le rappelez.
Il est bien préservé dans un coffre.
Et donc, c'est une œuvre qu'on peut admirer, alors, tout le temps, de temps en temps, comment
alors,
ça marche?
Alors, c'est une œuvre sur papier qui est donc relativement fragile. Ouais. Donc, on la présente à l'Artothèque de façon saisonnière, une durée de 6 mois. Et après, elle retourne en réserve. Il faut savoir que l'Artothèque, c'est le centre de conservation des collections communales. Ouais. Donc, vous avez une partie au rez-de-chaussée qui est accessible aux visiteurs, dans laquelle on expose une partie des collections, dont les bêcheurs. Et puis, aux étages, vous avez les réserves. Et donc, il se trouve que tous les 6 mois, l'œuvre retourne dans les réserves pour être préservée pour les générations futures.
Plus d'infos sur le site de l'Artothèque Pôle Muséal de Mons. Et la maison de Coëm est évidemment accessible aux visiteurs, accessible du mardi au dimanche. Et l'accès est gratuit tous les premiers dimanches du mois.
Eh bien, je vous invite à continuer à marcher sur les pas de Van Gogh en partant pour Wham sur la commune de Colfontaine. On est toujours dans le Borinage avec cette fois notre deuxième invité, Philippe Depeuyd.
L'agence Tourisme sur la première.
Vincent Van Gogh qui suscite aujourd'hui dans le monde admiration, passion. Passion, c'est sans doute le mot qui vous correspond le mieux. Vous n'êtes pas un spécialiste de Van Gogh, vous aimez le préciser. Elle est arrivée comment, cette passion pour Van Gogh? Comment ça a démarré?
Eh bien, oui, c'est assez curieux. Enfin, c'est-à-dire que je suis arrivé dans le Borinage en 91, originaire de Flandre, attiré par le charme féminin de la région. Et en fait, à un moment, donc, il y avait une agence bancaire où on allait, à l'époque, il fallait aller soi-même, donc c'est plus que pas par ordinateur. Et un jour, le banquier me dit, mais tu sais, en face, là, il y a une maison dans laquelle habitait Vincent Van Gogh. Et moi, je le regarde, je dis, allez, qu'est-ce qu'il me raconte encore là? Il dit, bah si, dites, je jure. Regarde, il y a même une plaque sur la façade et il y a même des autocars qui s'arrêtent, même des Japonais. Alors, je dis, allez. Bon, je suis allé voir, effectivement, il y a une plaque, mais cette maison, elle était vraiment dans un état incroyable, une grande ruine, hein, Caroline s'en souvient aussi. Elle était vraiment abandonnée. Et à un moment, je me dis, mais enfin, comment est-ce que c'est quand même, c'est possible, Van Gogh, quand même? Je ne connaissais pas encore beaucoup sur Van Gogh, mais je dis, allez, quand même, un artiste si connu et des gens viennent visiter, viennent du monde entier, avec quelle image est-ce que ces gens-là doivent rentrer chez eux? Quelle image de la Belgique? Et puis ça a trotté un petit peu. Bon, après, j'ai commencé à travailler dans le tourisme et je dis, mais il y a quand même peut-être quelque chose à faire avec ça. Et je dis, mais si je vais à la commune, je vais aller rouspéter, etc. Je dis, ils vont m'envoyer bouler, ça ne va pas aller. Je dis, je vais essayer de travailler dans le sens inverse. Et j'ai commencé à organiser des promenades. D'abord avec la Lehrerenkarte, c'est comme la carte prof parce qu'ils organisent des sorties pour VIP, etc. Et j'ai fait quelques balades ainsi et j'ai envoyé de la liste des participants à la commune en montrant, regardez, il y a un intérêt pour cette maison. Et la deuxième fois où on était déjà accueillis avec du café et un morceau de pagnon à la commune de Colfontaine. Et un peu ainsi de suite. Et puis bon, évidemment, Mons 2015 est arrivé avec Vincent Van Gogh, une des thématiques principales. Et donc voilà, à un moment, ils ont... Évidemment, ils ne savaient pas faire autrement, je crois, que de rénover aussi cette maison, parce qu'avoir une expo Van Gogh avec des tableaux du monde entier et avoir une maison à 10 km qui est en ruine, ce serait pas...
C'était pas terrible comme image de marque.
Voilà, tout à fait. Et donc là, voilà, donc grâce à l'intervention de la commune de Colfontaine, aussi de la Fondation Mons 2015 et, voilà, et d'autres partenaires, cette maison est aujourd'hui sauvée. Et en fait, on peut l'utiliser maintenant pour... Bah, y a une scénographie qui retrace aussi un peu la vie de Vincent Van Gogh. Il y a un petit film, il y a un écran touchscreen où on peut trouver toutes sortes d'informations. Et il y a aussi maintenant la salle à côté, qui est une autre maison qui n'avait jamais été achevée. Elle a aussi été reprise par la commune de Colfontaine. Et là, on l'a appelée l'atelier de Vincent. Donc, il y a des places pour réunion, il y a des artistes qui viennent en résidence exposer, etc. Il y a aussi une chambre, il y a le lit. C'est pas son vrai lit, mais bon, voilà, il y a des résidences qui viennent. Il y a aussi quelques photos, justement, du tournage du film Lust for Life en 1955, où Kirk Douglas jouait le rôle de Vincent Van Gogh. Donc, voilà, on plonge un petit peu dans l'histoire de la vie de Van Gogh, son passage dans le Borinage, et voilà aussi Kirk Douglas, parce que là, c'était aussi assez important pour le Borinage d'avoir une équipe de Hollywood, en fait, pendant 2 semaines. Voilà, donc,
Il y a d'autres sites à Wham qui sont liés à Vincent Van Gogh?
Il y a un endroit, mais il n'y a pas énormément de choses à voir, mais il y a un endroit qu'on appelle le Salon du Bébé, qu'on appelait le Salon du Bébé parce que c'était un salon de danse que la communauté protestante louait pour faire des lectures de la Bible. Et en fait, il y a un panneau, enfin, juste une plaque qui atteste que Van Gogh a prêché là-bas. Évidemment, il y a le charbonnage de Marcas, il y a l'ancienne gare de pâturage où il est descendu du train en décembre 1878, lors de son arrivée, où il a été accueilli. Et voilà, donc quelques endroits. Bon, voilà. Il y a aussi pas loin de là, leur aframerie, encore de quelques traces de l'ancien charbonnage de la grappe, où Vincent a été soigné des brûlés lors de la grande catastrophe en avril 1879. Donc. Et il y a quelques œuvres d'art aussi qui sont un peu par-ci, par-là. Par exemple, un buste de Ossip Zadkine, qui est à la possession de la commune de Colfontaine. En fait, avec Visite Mons, on a fait un parcours qu'on peut faire à vélo, qu'on peut faire en voiture, à pied si on veut. Donc voilà.
Et votre maintenant... passion est née comme ça. Et, oui. Et comment est-ce que vous avez plongé dans l'histoire de Van Gogh? Tout de suite, vous vous êtes dit, tiens, je vais aller me nourrir de ça?
Ben oui, en fait, pas tout de suite, mais bon, quand même, ça me trottait toujours un peu dans la tête. Et ouais. J'ai découvert l'existence déjà de certains livres sur le passage de Van Gogh dans le Borinage, entre autres Louis Pierrard, il y a M. Secrétin, il y en a toute une série, enfin quand même quelques-uns que j'ai commencé à
cultiver. Vous avez dévoré, ouais.
Oui, voilà, si on veut. Mais comme j'aime bien me promener aussi, j'ai continué cette activité, donc en découvrant les traces de Vincent Van Gogh, comme lui, il s'est déplacé aussi en fait à pied.
Vous avez vécu sur ses traces réellement. Quoi.
Voilà, et donc je raconte un peu, je fais écouter des extraits des lettres qu'il a écrites à son frère Théo quand il était dans le Borinage. Mmh. Comme ça, les gens, ils l'entendent un peu, les paroles de Van Gogh.
Ils peuvent s'imaginer le décor, voilà. Tout ce qui se passait à ce moment-là.
Oui, oui, tout à fait.
Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dédiées à Van Gogh à faire dans cette région. Alors la maison de Wam, on l'a dit, est gérée par le Centre culturel de Colfontaine. Mmh. Elle se visite tous les week-ends, mais plutôt sur rendez-vous. Alors, vous êtes un grand marcheur, vous l'avez tout à l'heure dit, Philippe. Vous organisez souvent des balades Van Gogh dans la région. Et bien, il y en aura une dans les prochains jours. Oui. Sur le site de l'ancien charbonnage de Marcasse, dont on va parler dans quelques instants. Ce sera donc le 30 mars, cette balade.
Ah ben, c'est pas mal.
Ce sera le jour d'anniversaire de Vincent Van Gogh, d'ailleurs.
Qui est né, effectivement, le 30 mars. J'ai noté la date.
1853.
Voilà, c'est ça, 1853.
Comme moi. C'est dingue, c'est fou comme ça.
1853.
Ah non, ouais. Mais pas très loin. Tiens, tendez l'oreille, tiens, c'est le moins qu'on puisse dire. Un peu de musique pour nous détendre. On continue à s'amuser, à découvrir aussi dans l'agence tourisme, mais découvrir aussi les artistes qui nous font du bien avec The Feeder tout de suite. Voici You and I. L'agence tourisme sur la première en musique avec The Feeder, You and I. Et puis on replonge là, sans plus attendre, sur les traces de Vincent Van Gogh.
L'agence tourisme sur la première.
Van Gogh qui nous accompagne donc durant cette heure sur la première dans l'agence tourisme avec vous Marianne. On va rester à Colfontaine pour votre reportage de la semaine. Vous nous emmenez donc dans un ancien charbonnage.
Eh bien oui, c'est en effet sur le site du charbonnage de Marcasse, je viens d'en parler il y a quelques instants, que Vincent Van Gogh est descendu à 700 mètres de profondeur en avril 1879 pour se rendre compte des conditions de travail des mineurs. Alors ce charbonnage qui fermera dans les années 50 et qui est en quelque sorte resté dans son jus est aujourd'hui la propriété de Nadine Gravis et de son mari Ricardo Barberio. Alors, petite présentation des lieux avec Nadine, que j'ai rencontrée bien évidemment sur place par une belle matinée ensoleillée. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Oh Nadine, mais quel site incroyable ce charbonnage de Marcasse. Alors, première question, pourquoi vous avez acheté ce site en 93?
Ben, au départ, c'était pour mettre nos animaux. On cherchait un endroit pour mettre... On avait des chevaux. Enfin, on a toujours des chevaux. Et des chèvres, des moutons. Parce que mon mari faisait du fromage de chèvre et de moutons. Donc, on voulait faire une ferme d'animation pour les enfants, accueillir les enfants, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les animaux. Et en plus, quelque part, c'était un petit peu... rend un petit peu mémoire aux mineurs, puisque dans le temps, les chevaux se trouvaient dans le fond de la mine, et après, ils se sont trouvés à la surface.
Quand vous avez acheté le site, vous ne saviez pas que Van Gogh était passé par ici?
Non, quand on a acheté le site, on ne savait pas du tout que Van Gogh était venu ici. C'est un an après, on a eu la visite du National Geographic, qui faisait justement un livre et un reportage donc sur la vie de Vincent Van Gogh, avec tous les endroits où il est passé, et où il a vécu, et où il a travaillé.
Et alors, quelle était votre réaction?
J'étais surprise, parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et suite à ça, donc on a fait des photos. Le livre est sorti, je crois, en 1997. Et en même temps, on a mis aussi à l'honneur le père de mon époux, qui était justement mineur.
Alors maintenant, ce site est considéré comme un atout touristique pour Mons, par rapport à Vincent Van Gogh, bien sûr. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous programmez pour les personnes qui viennent visiter le site? On va le parcourir ensemble, d'ailleurs.
Oui.
si vous êtes d'accord. Oui. Donc ici, d'abord, on va décrire un peu ce qu'on voit, où nous sommes.
Alors, en fait, ici, vous êtes à l'espace où il y avait le puits, un des puits principaux, puisque le site se compose de trois puits. Donc il y a le premier ici et le deuxième ici. Donc le puits où Vincent Van Gogh descendait.
Il est descendu jusqu'à 700 mètres.
Jusqu'à 700 mètres, qui décrit justement dans une de ses lettres, avec donc les péripéties qu'il pouvait avoir en descendant.
C'est une lettre qu'il a adressée à son frère, je pense, de
à
mémoire.
À son frère, oui, c'est ça. Oui. C'est ça.
On avance, on va tout droit. Alors, expliquez-moi, où va-t-on?
Ben ici, on va rejoindre la partie arrière, donc où il y avait évidemment beaucoup de bâtiments, parce que le site, tout le site était composé de bâtiments. Donc, il y avait le lavoir, il y avait la trémie, en fait, plein de bâtiments. Et il reste une partie du ponton aussi, où les chariots passaient pour partir d'un charbonnage à l'autre.
Qu'est-ce que vous expliquez aux touristes qui viennent visiter le site?
Ben, on raconte un peu l'histoire donc, du charbonnage, la période où il a été fermé, la catastrophe.
En 1953,
qui a suscité sa fermeture en 54, fin 54, et a été désaffecté en 1955.
Évidemment, le site est resté un peu en l'état hein, depuis les années 50 et depuis l'époque à laquelle vous l'avez acheté.
Au départ, on a racheté quelques machines pour dire de pouvoir nettoyer le site. Et c'est comme ça que maintenant, vous avez une belle plaine et qu'on voit les chevaux et qu'on voit la nature, puisqu'on est aussi au pied d'une réserve naturelle qui est gérée par Natagora.
C'est ici, sur la droite, là?
Non, le terri, il est là. Il se trouve là, juste sur le côté.
D'accord. Voilà. Le terri, c'est la réserve.
C'est la réserve naturelle. Ici, vous êtes vraiment sur la partie du charbonnage.
C'est accessible aux visiteurs, cette réserve?
Oui, c'est accessible aux visiteurs, mais pas par l'intérieur du charbonnage. Quand on va rejoindre le Ravel, et à ce moment-là, il y a une partie qu'on sait monter sur le terri. Donc, vous avez une accessibilité qui monte tout en haut et vous avez une vue extraordinaire.
Une vue extraordinaire. Vincent Van Gogh, on l'a entendu, hein, qui entretenait des conversations avec son frère cadet, qui était marchand d'art à Paris, qui parlait justement de ce site que vous connaissez bien, Philippe, et que vous aimez beaucoup. Il est donc tout proche de la maison de Wham, c'est ça?
Oui, en fait, il y a quoi, traversant 700 mètres, donc c'est vraiment très proche. D'ailleurs, depuis la maison, on a une belle vue sur ce qui reste des bâtiments, sur les terrils, parce qu'il y a celui de Marcas, il y en a encore deux autres. C'est vraiment à mon avis, un des plus beau paysage du Borinage.
C'est très, très beau, je confirme.
Ouais. Et cette descente dans la mine est attestée à travers une lettre que Vincent adresse à son frère Théo, n'est-ce pas, Caroline?
Oui, tout à fait. On peut la retrouver sur le site internet Van Gogh Letters, qui reprend vraiment toute la correspondance de Van Gogh avec son frère.
Il y a plus de 600
Théo.
Lettres.
Hein. Oui, tout à fait. Il y a un travail colossal qui a été fourni pour traduire ces lettres en plusieurs langues. Et c'est vraiment à l'issue de cette descente dans la mine de Marcas que Van Gogh va avoir garder une sensation très importante des conditions de travail de ses ouvriers. Et d'ailleurs, quand il sera à La Haye, il essaiera vraiment de collecter un maximum d'illustrations, de gravures en lien avec ce monde minier pour pouvoir le reproduire.
C'est une expérience qui l'a beaucoup marqué. J'ai un extrait de la lettre sous les yeux. Il raconte notamment qu'il a passé 6 heures dans cette mine, une des mines les plus anciennes, les plus dangereuses des environs, appelées Marcas, raconte-t-il. Et en levant les yeux, on distingue la lumière du jour à peu près de la taille d'une étoile dans le ciel.
Ouais.
Ça a dû beaucoup le marquer, effectivement. C'est un lieu chargé d'ambiance, en tout cas, ce charbonnage. Je l'ai visité avec vous aussi. Vous étiez en train de faire des photos de Nadine et de moi.
Ah oui, Marianne ne vient pas tous les jours à Marcas.
Ah ouais, non, bah voilà, c'est ça. Lieu chargé d'ambiance, cette atmosphère, c'est un lieu très graphique, même très cinématographique. Mmh. Et ce mot n'est pas choisi au hasard. Allez, on retrouve Nadine qui parle vraiment avec cœur, vous l'avez entendu, de son charbonnage.
En fait, les gens, quand ils viennent ici, ils sont un petit peu, pas ébahis, parce que bon, ce sont quand même des ruines, mais qui ont une certaine architecture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en descendant la rue de Marcas, vous avez l'impression que vous arrivez sur un château en ruine.
Exact.
Ça donne cette impression-là. Et quand vous rentrez dans la partie du charbonnage, vous sentez, il y a une atmosphère qui fait... On ressent le vécu de cet endroit. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui apprécient parce qu'il dit que ça restait dans son élément. Et on ne peut pas oublier, donc il y a quelque part un devoir de mémoire aussi.
Bien sûr, et on se dit donc que Vincent Van Gogh a foulé cette terre, a foulé ce sol, il y a plus d'un siècle forcément, mais voilà. Et alors, Certains films ont été tournés ici.
Oui, donc il y a notamment, pour mon 2015, le choix de peindre Van Gogh par Henri de Gerlache. Il y a des films d'animation, comme Les Pigeons nous scient dessus, Joe et compagnie, bon, Arcadia dernièrement. Il y a aussi des clips vidéo qui ont été faits pour des chanteurs qui commencent, ou alors pour d'autres choses, pour faire de la publicité aussi.
Mm-hmm. Mais le film avec Cœur de glace, il n'y a pas eu un tournage
ici ? Le film avec Cœur de glace a été tourné en 1955. Donc, vous voyez la partie qui se trouve ici sur le côté. C'est la partie qui a été tournée principalement avec la calèche qui est remontée et la soi-disant cabane qu'il avait vécue quand il est venu.
C'est ça. Donc, Cœur de glace a tourné ici, on
Cœur
est d'accord.
Cœur de glace, il est venu avec Vicente Minnelli, donc qui a fait énormément de... Allez, je vais dire de tapage à cette période-là, parce que bon, Hollywood qui descendait, je vais dire, dans le Borinage, c'est un événement extraordinaire.
Donc le Charbonnage qui venait à peine de fermer en réalité.
Mais en fait, ils ont tourné en 55, donc quand il a été désaffecté.
Alors vous avez découvert un nouveau métier, vous Nadine, vous êtes un peu guide touristique maintenant.
Ben, en fait, bon, quand moi j'aime bien recevoir les gens, j'aime bien les expliquer. Bon, et puis je suis quelqu'un d'assez convivial, donc, et puis de voir les gens qui sont satisfaits. Bon, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits comme partout, je veux dire, mais la majorité des gens, ils disent, ils apprécient parce que c'est vraiment un cadre, c'est reposant, c'est beau, malgré tout, même si ce sont des ruines. Mais bon, je veux dire, quelque part, c'est un cadre agréable, et surtout quand il fait du soleil.
Passé industriel et puis voilà les traces d'un artiste connu mondialement aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Passé industriel, chose qui est très importante parce qu'il ne faut pas oublier quand même, il y a des gens qui ont souffert énormément, qui ont travaillé dans les fonds de mine. Et puis il y a aussi Vincent Van Gogh qui est justement une chose importante par rapport au passage dans sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas que Vincent Van Gogh était venu dans le Borinage. Donc quelque part, c'est vraiment mettre à l'honneur la petite partie du Borinage que nous sommes.
Ouais, un site assez unique. Hein, qui est
elle
important
est touchante, Nadine.
Vraiment, quelle chance vous avez eu.
Elle est adorable.
Un site unique, important d'ailleurs de préserver ce genre de site pour les générations futures, Caroline Philippe.
Vous avez pas important de gérer le site voilà. Pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on va faire de Marcas demain, en gros?
On ne le sait pas trop, en fait. Hein, c'est un peu parce qu'il appartient à Nadine et Ricardo. Ils ne seront pas éternels. Et donc, c'est vrai qu'on a déjà, avec un petit groupe, on a fait un master plan, mais ça remonte à 2017, pour essayer de trouver des financiers ou bien trouver un accord privé-public. Bon, jusqu'ici, ça n'a pas encore vraiment fonctionné. Mais c'est vrai que ce site, il a un potentiel énorme et on essaie, bon, on n'a pas pour l'instant pas vraiment les moyens pour faire beaucoup pour restaurer, il faut sécuriser surtout les bâtiments, mais chaque année on organise une série d'événements pour essayer d'attirer l'attention sur l'existence, notamment voilà, en tout cas le dernier week-end de juillet. Il y a chaque fois un événement qu'on a baptisé Marcas aux chandelles. Mm-hmm. C'est vrai que Van Gogh y a vu l'étoile, disons, du fond depuis de la mine. Et donc voilà, c'est un événement. Je crois que on en parle sans doute avec Caroline aussi. Un événement avec différentes animations culturelles, folkloriques, etc.
Oui, parce que fin juillet, c'est un week-end de festivités en réalité à Mons pour Van Gogh.
Oui, c'est un week-end hommage rendu à Van Gogh. Ouais. Hein, il est décédé. Fin juillet, donc
exact.
Ça coïncide un peu avec sa date.
Alors, c'est un suicide ou c'est... parce que, voilà, c'est assez particulier. Il s'est tiré une balle.
Alors, les récentes études menées par le Van Gogh Museum attestent pour cette théorie-là du suicide,
d'accord,
en fait.
Okay.
Oui. Alors, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'écrits là-dessus.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une controverse. Enfin, il fallait éclaircir les choses. On précise que l'ancien charbonnage de Marcas donc, n'est pas accessible librement, il faut le dire. Hein, donc, c'est seulement via le biais d'organisation.
Bah,
c'est sur réservation.
Oui. Quand ils sont là, quand les propriétaires sont là, ils ouvrent. Hein, mais bon, voilà, le mieux, c'est de prévenir à l'avance, on peut.
Il y a beaucoup de choses à découvrir dans la région montoise. L'occasion pour nos auditeurs de compléter leur connaissance de l'œuvre et de la vie vie de Van Gogh ou de l'aborder effectivement par des aspects et des lieux moins connus. J'ai encore une toute dernière question pour vous, Philippe. Donc, je rappelle la balade aussi le 30 mars prochain, c'est dans quelques jours, sur les traces de Vincent Van Gogh, qui passera notamment par Marcas, la maison de Wam, etc. Et la visite se termine, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, par un morceau de Pagnon Bourrin. Moi, j'ai quand même envie de savoir ce que c'est.
Ah, vous n'avez pas eu l'occasion de
non.
Il faut revenir le 30 mars.
Mais lui, il en a eu après, chez son banquier, un pagnon et un café.
Tout à fait. Mais le pagnon, c'est une spécialité locale, en fait, du Borinage. C'est une sorte de c'est une tarte, disons, qui est faite avec les restes de pâte, de pain, que les femmes donc aplatissaient, comme une sorte de, on pourrait dire une pizza, et dans lesquelles elles faisaient des trous avec les doigts, et là, on coule de la cassonade dedans, donc, et avec une tasse de café. C'est très nourrissant. Hein. Voilà, il y a un morceau de pagnon. Et ce qu'on ne peut pas oublier de dire non plus, c'est qu'il y a moyen de boire une bière qui a été faite à l'effigie de Van Gogh, la nuit étoilée.
Exactement.
Et là, j'espère, parce que je rigole avec Marianne, parce que sa bouteille qu'elle avait reçue, elle a coulé un petit peu. Oui.
C'est une fâcheuse histoire, on ne va pas s'y attarder. Il faut signaler également qu'il existe un pass Van Gogh, c'est très important, accessible à partir de 12 ans, pour seulement 8 euros par personne, donc c'est vraiment très démocratique. Vous avez accès à 4 sites, le site de Marcas, la maison de Wam, la maison de Coem et l'Artothèque, dont on a parlé tout à l'heure. Par ailleurs, sous réservation préalable auprès du Visite Mons, il y a aussi la possibilité de louer un vélo pour parcourir effectivement ces différents endroits. Donc n'hésitez pas à vous rendre auprès de Visite Mons, c'est sur la Grand Place de Mons, ou d'aller sur leur site, bien sûr, visitemons.be.
Vincent Van Gogh, peintre qui inspire notamment nos auteurs de bande dessinée. Et on vous en parle tout de suite.
La première...
L'agence Tourisme,
Marianne Périlleux et Walid.
Vincent avant Van Gogh, c'est le titre d'une bande dessinée qui va bientôt paraître chez Glénat. C'est avec son auteur et dessinateur Sergio Salma qu'on en parle. Bonjour Sergio.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous en ce samedi?
Ça va très bien.
Ah bah ça va. Tu vois, il y a un petit moment d'hésitation. Sur première question, pourquoi une bande dessinée sur Van Gogh? Là aussi, les questions de passion. Pourquoi et comment l'idée vous est-elle venue?
Alors, moi, je fais de la BD depuis plus de 30 ans, et puis on est toujours un peu à la recherche de nouveaux sujets. Et j'étais en train de travailler sur la révolution industrielle et sur les charbonnages, les mines en Belgique. Et puis, j'ai visité à cette occasion un ancien charbonnage, des ruines en réalité. Et je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, c'est ici que Vincent Van Gogh est passé. Et par le biais de mon intérêt pour le charbonnage, en fait, j'en suis arrivé à la biographie de Vincent Van Gogh, qui a eu une période dans le Borinage.
Voilà, on connaissait l'oreille cassée d'Hergé, mais là, du coup, comment on dessine Vincent Van Gogh? Il y a très peu de documents iconographiques.
Alors, ça fait partie du jeu, effectivement, d'imaginer. On a quand même 2 ou 3 photos et puis beaucoup d'autoportraits, mais qui de son âge adulte, on va dire.
Oui, qui sont très différents, en plus.
Oui, les autoportraits sont parfois, on a l'impression que c'est pas la même personne.
Oui,
mais ma recherche s'est basée sur une espèce de spéculation en réalité, sur la photo qu'il a faite, qu'on a de lui à 13 ans. Et puis sur un autre élément, c'est que Vincent Van Gogh avait un frère, ce frère Théo a eu un fils, donc le neveu de Vincent Van Gogh.
Ah oui, c'est
peintre.
Pas mal, ouais, donc vous êtes revenu sur les traces
donc,
de la filiation de famille.
Voilà. Et en ayant des photos de du neveu, donc, qui est décédé en 1978, il a vécu jusqu'à 88 ans. Donc, de lui, on a une série de photos qui m'ont, en fait, un peu servi pour imaginer que le Vincent Van Gogh originel ressemblait à à son neveu. Et c'est en partie vrai, puisque si on compare une photo de Vincent à 13 ans quand il est à l'école, et des photos de son neveu quand il a 10, 11 ans, parce que lui a été photographié et même peint par le nouveau mari de sa maman. Et donc, j'ai spéculé sur une espèce de ressemblance et j'ai décidé de prendre ce visage-là, en réalité.
Ah, c'est pas mal. Tiens, petite question rapide, Caroline Philippe. Il y a encore une descendance, Van Gogh?
Oui, tout à fait.
Alors, il y a plein de...
Ouais. Il y a une descendance.
Effectivement.
Tiens, ce neveu a eu des enfants qui ont eu des enfants qui ont eu des enfants.
Ah,
il y en a un qui a détaillé la chronique qui s'appelait Théo Van Gogh. En fait, les prénoms sont donnés plusieurs fois de génération en génération. Théo Van Gogh était un cinéaste qui a été assassiné en 2004.
D'accord.
Par intégrité.
D'accord.
Pour la petite histoire, la famille gère une fondation qui s'appelle la Fondation Van Gogh, qui met en dépôt une partie des œuvres Van Gogh auprès du Van Gogh Museum d'Amsterdam.
Ouais, c'est pas mal ça. Tiens, quelle histoire vous racontez dans votre bande dessinée ?
Alors moi c'est simple, Vincent Van Gogh, on sait beaucoup de choses de lui, il y a sa correspondance, puis il y a eu des films, des livres, des pièces de théâtre, il y a beaucoup de choses, mais en fait on ne sait pas grand chose de sa vie avant qu'il ne décide de devenir artiste ou peintre, c'est-à-dire à 27 ans. Et en fouillant un peu, je me suis rendu compte que dans cette période avant son métier d'artiste, mais qui n'aboutira finalement pas vraiment, il était passé par le Borinage, et ça c'était les 2 années ou les 20 mois qui précèdent sa décision. Et puis je me suis passionné en remontant le temps, qu'a-t-il fait à 24, 23, 22, et je suis remonté jusqu'à sa naissance, et même un an avant sa naissance, pour un petit peu resituer tout. Qu'est-ce qui amène un individu à 27 ans à décider de devenir artiste? Il n'y avait aucune velléité quand il avait 15 ans, il n'avait aucune envie de devenir dessinateur ou artiste, ou peintre. Il y est arrivé.
Mais ne révélez pas tout. Laissons les lecteurs justement se plonger dans votre magnifique bande dessinée. Magnifique bande dessinée à découvrir chez Glénat.
Qui va sortir en juin prochain, Sergio. Cette sortie d'album va être couplée à une exposition à la Maison Van Gogh de Wam, justement, dès le 18 avril prochain. Une expo qui va forcément être en lien avec votre BD à venir. Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir dans l'expo en avant-première? Alors, quelques planches, des dessins, des recherches, quoi exactement?
Voilà, vous répondez à la question et je vais faire une sélection de planches, dont une quarantaine quand même, parce qu'il y a 136 pages dans l'album, je ne pourrais pas tout mettre. Mais effectivement, les recherches et aussi des recherches un peu iconographiques sur la période. Moi, ça m'a aussi intéressé de situer le futur artiste, mais l'homme de 1853 jusqu'en 1880, quand il décide de devenir artiste. Toute cette période, et j'ai fait beaucoup de recherches graphiques, d'esquisses, et tout ça sera exposé en même temps que les planches définitives, en noir et blanc.
Eh bien, grand merci. On va suivre tout cela de près, Sergio. Vincent avant Van Gogh, c'est donc à la fois le titre du bouquin, enfin de l'album, et de l'exposition. Dès le 18 avril à la Maison Van Gogh de Wam, cet album donc à apparaître chez Glénat en juin prochain. Je sais qu'il y a déjà un deuxième album en préparation sur Van Gogh. C'est un sujet intarissable.
À mon avis, un troisième aussi, parce que Sergio, il est à fond dedans.
et vous allez vous intéresser...
Oui. Plus on fouille un sujet, plus
on découvre des choses. Ah bah ouais, bien sûr.
Incroyable.
Ouais, donc on prédit donc déjà ici 25 tomes. C'est bon. En tout cas, merci, merci Sergio. Tiens, une dernière petite question à vous, Caroline et Philippe, avant de se quitter. Pourquoi découvrir Van Gogh dans le Borinage en deux mots?
Moi, c'est découvrir une histoire très peu connue, la vie de Van Gogh
autrement. Deux mots.
Je vais recommencer à deux mots.
deux mots.
Passion et découverte.
Passion et découverte, Caroline.
Retour aux sources.
Retour aux sources, effectivement. C'est vrai qu'il aurait vendu qu'une seule toile de son vivant.
Les vignes rouges.
Et quel dessin ensuite.
Magnifique.
C'est en cela aussi qu'il est fascinant.
Bah voilà, on a dessiné, en tout cas, esquissé des envies, je l'espère, chez vous durant ces 60 minutes. Et c'est déjà la fin de l'émission. Et si vous voulez d'ailleurs réécouter l'émission, sachez que vous pouvez le faire en podcast sur Ovio. Merci à vous, Philippe. Merci à Caroline. Merci.
Avec grand plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine.
Mais bien sûr.
Même endroit, même heure. N'hésitez pas non plus à consulter l'article qui accompagne cette émission sur rtbf.be ou sur l'application RTBF Actu. À 14h, vous avez rendez-vous avec Kiosk, Kessindia et Isarelli. Et pour vous y emmener, voici le silence. C'est signé Charles.